Vas-y. Jean 21, du verset 1 au verset 19. Pour la petite histoire, ce chapitre était initialement, n'était pas dans l'évangile de Jean, il a été rajouté. On voit que le chapitre 20, celui qui est juste avant, il se termine par deux versets qui sonnent comme une conclusion. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Voilà. Et puis, pour une raison inconnue, il a été rajouté après cela, d'après les experts, le chapitre 21, qui est une nouvelle apparition de Jésus à ses disciples. Il y avait certainement une question qui n'était pas tout à fait réglée avec Pierre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vous lis le texte. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : Enfants, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent : Non. Il leur dit : Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur. Dès que Simon Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, en traînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, ce qui fait environ pas tout à fait 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : Apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : Venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander : Qui es-tu ? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Sois le berger de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois : M'aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit : Suis-moi. Ce matin, au travers de ce récit que le Seigneur nous donne à notre méditation, eh bien peut-être que le Seigneur nous pose cette question, comme il l'a posée à Pierre : M'aimes-tu ? Toi, m'aimes-tu ? Attention de ne pas répondre trop vite à la question. Parce que vous allez voir que dans le fond, la difficulté n'est pas forcément, ne se trouve pas dans la réponse, elle se trouve, la difficulté plutôt dans pourquoi Jésus pose-t-il cette question. Vous posez des questions, hein. Pourquoi Jésus harcèle-t-il Pierre, l'aime-tu trois fois? Alors ce texte est sur le plan symbolique rempli, mais alors rempli, on n'aura pas le temps de vraiment tout examiner, il est rempli de signification pour nos vies, pour notre foi à nous. Je vois ça un peu comme une sorte de pièce de théâtre, avec plusieurs actes. Alors, on va prendre toute cette pièce, en quelque sorte, dans l'ordre chronologique. Acte 1, les disciples, là, qui sont au nombre de 7, ils étaient plus que 11, mais enfin là, ils sont plus que 7. Les disciples, sur l'élan, l'invitation de Pierre, décident d'aller à la pêche. On a l'impression que les disciples là sont désœuvrés, quoi. Ils sont dans l'attente, ils s'ennuient, ils attendent. Mais si on creuse un peu, on se dit c'est quand même assez incroyable. Ils ont vécu 3 ans avec Jésus, 3 ans, un tourbillon dans la vie d'un homme. 3 ans avec Jésus, je vais être quelque chose à compter. Ils ont vu des miracles par paquet de sang, enfin des trucs incroyables. Et que dire de la dernière semaine passée avec Jésus? Ça a commencé avec l'entrée à Jérusalem, l'acclamation de la foule, puis tout de suite après, l'arrestation, le procès, Gethsémané, il y a eu Golgotha, la crucifixion, et puis, la résurrection. Parce que Jésus est déjà apparu aux disciples. Vous imaginez un peu dans le mental de ces gens, la frénésie dans la vie de ces disciples. Et puis de ce coup, plus rien. Le calme plat. Alors certes, Jésus est apparu une fois, deux fois. Là, il est dit que c'était la troisième fois dans ce récit. En fait, Jean ne compte pas, enfin, il parle d'apparaître à ses disciples, mais il ne compte pas l'apparition aux femmes. Enfin, de toute façon, d'un évangile à l'autre, on n'est pas très sûr. Mais enfin, bon, des apparitions très brèves, puis relativement espacées, puis plus rien. Plus rien. Donc, il s'ennuie, il retourne à la pêche. Alors, c'est impressionnant de se dire que, avant de connaître Jésus, Pierre et puis d'autres, pas tous, mais d'autres disciples, étaient des pêcheurs sur le lac, pêcheurs de poissons. Et puis, en ce qui concerne Pierre, un beau jour, Jésus lui met le crapaud dessus et lui dit: toi, désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. C'est ce qu'il lui avait dit. Mais là, pour le coup, il redevient pêcheur de poissons. On a un peu l'impression que ces 3 ans, et puis surtout cette dernière semaine avec Jésus, c'est comme une sorte de parenthèse dans leur vie. Ils étaient dans une vie ordinaire où, ma foi, ils avaient pêché le poisson. Et puis après, la parenthèse, tout reprend comme avant. Et voilà quelque chose que, dans nos vies de chrétiens, on peut ressentir. Qui n'a pas connu des temps d'exaltation, alors notamment au moment de la conversion? Alors, c'est d'un individu à l'autre, les conversions sont très différentes, hein, mais on connaît les chrétiens où ils étaient leurs problèmes dans leur vie, hein, puis d'un seul coup, le Saint-Esprit leur tombe dessus. Il y a une sorte d'explosion de foi dans leur cœur. Et puis ces gens-là peuvent ressentir qu'un beau jour, finalement, la vie reprend son cours, son train-train quotidien, et il faut aller au boulot, il faut manger, il faut subir tout ce qu'on subit dans la vie. Pas toujours des choses très drôles, les difficultés, les peines, les mêmes, voilà. Et alors, ça peut nous affecter parce qu'on se dit, pourtant, cette exaltation que j'ai ressentie à tel moment, tout ça, ça retombe comme un soufflé. Eh bien, il faudrait aller plus loin, évidemment, dans la Bible, mais qu'est-ce qu'on voit avec Pierre? C'est qu'après, jusqu'à la fin de sa vie, il va être enraciné en Dieu et il va faire des choses extraordinaires, il va aller jusqu'à Rome, il va aller, vous voyez, donc ça va reprendre. Mais il y a ces moments où la vie reprend son cours, son train-train, sa routine, qui ne doivent pas nous affecter, ne sont pas constamment dans l'exaltation avec le Saint-Esprit, avec Jésus, pas 24 heures sur 24. Voilà déjà le premier point. Acte 2. Acte 2, je dirais, c'est Jésus se manifeste. Il apparaît sur la plage, alors que les disciples sont à une centaine de mètres du bord, et il les interpelle. Alors là, ce qu'il faut noter, une chose très curieuse, mais récurrente dans le processus de résurrection, c'est que les disciples ne reconnaissent pas instantanément Jésus. C'est une constante. Regardez, dès le départ, ben on l'a vu tout à l'heure, Marie au tombeau. Tout de même, s'il y a une personne qui allait sur terre, c'était bien Jésus. Donc elle ne le reconnaît pas. Elle croyait que c'était le jardinier du cimetière. Rappelez-vous les disciples qui font route vers Emmaüs. On appelle les disciples d'Emmaüs, mais ce ne sont pas eux. Ils font route vers. Eux, alors, ils cheminent pendant plusieurs heures, ils discutent avec Jésus, chemin faisant, des Écritures, sans savoir que c'est Jésus. Attends, ils ont passé 3 ans avec lui. Ils ont eu le temps de le regarder, ils ont eu le temps de s'accoutumer à sa voix. Alors là, il est dit, il y a une petite explication, il est dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc il y a quand même une cause, c'est pas qu'ils sont perturbés à ce point, non, c'est que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ici, même chose. Il ne savait pas que c'était Jésus. Bon, il est un peu éloigné, là, 100 mètres. Bon, 95 mètres exactement, 200 ou des 95 mètres, soyons précis. Mais enfin, à 95 mètres, avec la voix aussi, on reconnaît les gens. Hein. Reconnaissent pas. Alors, à chaque fois, que ce soit les disciples d'Emmaüs avec Marie, avec les disciples ce jour-là au bord de la mer, à chaque fois, Jésus se fait reconnaître. Comment ? Non pas en disant c'est moi, c'est Jésus, vous ne vous rappelez pas, regardez-moi bien. Non. Jésus se fait reconnaître par une parole, un signe, un acte, un geste, quelque chose qui a marqué la vie des disciples. Avec Marie, c'est simplement en lui disant son nom, Marie-Madeleine. Hein, Marie. Et je crois que la façon dont il a prononcé ce nom, pour Marie, ça lui a été droit au cœur. Et là, Seigneur, Rabouni, maître, elle le reconnaît. Avec les disciples d'Emmaüs, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus se fait reconnaître le soir, au moment où ils sont à table, dans l'auberge, Jésus partage le pain. Et instantanément, les disciples reconnaissent Jésus à ce geste, qui a été un geste très fort et qu'on va reproduire tout à l'heure. Enfin, on va le reproduire. Enfin. Bon, c'est un signe. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Ici, Jésus va se faire reconnaître par le renouvellement d'un miracle, d'un tout premier miracle qu'il avait fait, d'ailleurs, qui était à l'origine du recrutement notamment de Pierre, la pêche miraculeuse. Un des tout premiers miracles, quand Pierre était devant cette pêche miraculeuse la première fois, il était tombé à genoux devant Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » Il reconnaît d'un seul coup qu'il y a là au moins l'homme de Dieu, si ce n'est pas Dieu. Et donc à partir de là, Jésus lui avait dit, tu étais pêcheur de poissons, maintenant tu seras pêcheur d'hommes. C'est un jeu de mots. Alors là aussi, je me dis dans nos vies, est-ce que Jésus, alors ça peut arriver, hein, Jésus, apparition claire, et on le reconnaît, on sait que c'est lui, il y a des témoignages dans ce sens, enfin, je pense que c'est du domaine de l'exceptionnel. Mais combien de signes Jésus met dans nos vies pour se faire reconnaître quand nous avons besoin de lui? Il y a des moments, moi je cherche la présence de lui, des moments difficiles, Seigneur, es-tu là? Et là, je crois qu'il nous faut ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, être à l'affût. Et Jésus trouve toujours le moyen de se faire reconnaître, de faire reconnaître sa présence. Il n'est plus physiquement parmi nous, c'est clair, c'est clair, depuis l'ascension, plus physiquement parmi nous, mais il est là. Et il s'est toujours trouvé le moyen. Alors, à nous de le voir, à nous de le détecter, ce moyen, ça peut être au travers d'un frère, d'une sœur, d'un geste, d'une parole qu'on entend, de quelque chose. Et oui, Seigneur, tu es là. Acte 3. Poursuivons dans notre récit. Acte 3. Acte 3, c'est Pierre qui se jette à l'eau. Parce que, alors, vous savez, lui, c'est le bouillant, le spontané, c'est un bâton de dynamite, celui-là. Hein. Il peut, bon. Et comme ben, le le bateau est freiné par le filet qui est rempli de gros poissons et il n'arrive plus à avancer. Donc lui, il trouve que c'est trop lent. Et dès lors qu'ils ont reconnu Jésus, lui, la tempête se jette à l'eau. Curiosité. Il met son habit. D'habitude, pour se jeter à l'eau, on se déshabille. Bah, lui, fait le contraire. Il était nu. C'était peut-être une habitude. Il pêchait avant lui. Il était en panne. Enfin, il était bon. Et pour pêcher, pour être plus à l'aise. Bon. Et là, pour aller retrouver Jésus, il met son habit. Alors, il faut rapprocher cette. On va appeler ça la honte de sa nudité devant Jésus, pour paraître devant Jésus, qu'il considère comme son Seigneur et son Maître. Cette honte, elle est à rapprocher de la honte de l'homme au jardin d'Éden, lorsque à tes souhaits, c'est pas Jésus qui éternue, c'est Sophie. Donc cette honte, je disais, est à rapprocher de celle du jardin d'Éden, lorsque Dieu appelle l'homme, où es-tu ? Je sais très bien où il est, mais il l'appelle, où es-tu ? Je me suis caché parce que j'étais nu, il répondit. Seulement à ce moment-là, le péché est déjà consommé. Et cette nudité, la honte de cette nudité, elle est évidemment symbolique de la honte du péché de l'homme lorsqu'il est devant son Dieu. Et c'est une honte que l'on peut aussi éprouver. Je me présente devant Dieu avec mon péché. Alors bien sûr, il y a la repentance, bien sûr, il y a le pardon. Mais, ça serait assez long à développer. Il faudrait revenir sur le texte de la Genèse, voir tout ça. Mais je pense que là, il y a directement une image de l'homme qui veut se protéger sa nudité, c'est-à-dire son être cru, vif, comme ça, devant son Seigneur. Et on va voir un peu plus loin pourquoi Pierre est dans cette attitude. Acte 4. On est au quatrième, hein, oui, 3, 4. Acte 4, eh bien, enfin la barque aboutit sur la plage, les disciples s'approchent de Jésus, et là, surprise, chose étonnante, il y a un feu que Jésus a préparé, et sur le feu, il y a du poisson qui grille. C'est bien ce que j'ai lu. Et on se dit, mais on avait cru comprendre que Jésus attendait qu'il ramène du poisson, puisqu'il les appelle, il dit, avez-vous quelque chose à manger ? L'air de dire, j'attends après pour préparer le repas. Non ? Regardez bien l'écriture, les disciples approchent, et le poisson est déjà en train de cuire, alors que ceux qu'ils ont attrapés sont toujours dans le filet, en attendant d'être sortis de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ça ? Eh bien, je crois que le Seigneur, là, il nous donne un signal très fort, il nous dit, je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin de vous pour servir ma cause, pour mon travail, je n'ai pas besoin de vous, je peux m'en sortir tout seul, je suis assez puissant, je suis assez grand pour faire tout le boulot tout seul, mais le Père, lui, a choisi d'utiliser ses serviteurs que nous sommes, ses disciples, pourquoi pas, pour faire le travail. C'est un immense honneur. Donc je répète, il n'a pas besoin des hommes pour propager sa parole, pour annoncer l'évangile, pour faire son œuvre de rédemption, il n'a pas besoin. Et là, il faudrait revenir sur la parabole du serviteur inutile. Pas le temps, il faudrait passer toute la matinée, donc je vous laisse compulser ça chez vous, la parabole du serviteur inutile. Oui, nous sommes des serviteurs inutiles, mais serviteurs quand même, et dans son immense bonté, le Seigneur veut nous employer. Il dit, je ferais bien mieux le travail si je le faisais tout seul, mais je vais vous utiliser, j'ai besoin de vous quand même. Je fais en sorte d'avoir besoin de vous. Pourquoi je dis ça ? Bien parce que Jésus dit, apportez quand même les poissons. Vous vous rappelez le texte ? On va le reprendre, parce que c'est quand même assez fort. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Vous voyez ? Donc le poisson est déjà prêt, le repas est prêt, mais apportez quand même. C'est-à-dire, je suis parfaitement capable de faire le boulot, tout seul, mais je vais quand même utiliser l'effort que vous avez fait, et pourtant l'effort qu'ils ont fait, bah, c'est juste d'obéir aux ordres de Jésus, et s'ils ont attrapé du poisson, c'est grâce à Jésus qui fait un miracle de pêche miraculeuse. Et vous voyez que tout revient, finalement, tout ce que nous pouvons faire, nous n'avons aucune gloire aucune gloire à tirer de tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. Aucune gloire. Pourquoi ? Parce que même si nous faisons, entre guillemets, des choses extraordinaires, je veux dire, c'est par la puissance du Seigneur. Nous n'avons strictement aucun mérite. Vous disiez qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ce texte. Acte 5. Alors là, on arrive au cœur du récit, parce que acte 5, eh bien, s'engage une conversation entre Jésus et Pierre. Et pour Pierre, eh bien, on apprend que c'est un petit peu difficile, hein, puisqu'il nous est dit au verset 17, « Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu ?» Effectivement, Jésus, par trois reprises, pose cette question. Est-ce que tu m'aimes ? L'air de douter, quoi, vous voyez. Alors il répond oui, une deuxième fois. Il dit, t'es sûr, tu m'aimes ? Oui. Est-ce que tu m'aimes ? Troisième fois. Évidemment, on comprend immédiatement que cette répétition de cette question se rapporte à la trahison de Pierre. Puisque par trois reprises, le soir de son arrestation, le jour de son arrestation, de l'arrestation de Jésus, Pierre avait renié le Christ. Alors évidemment, il avait peur, hein, parce que, dis donc, toi, tu n'étais pas un de ses disciples, et on veut dire, on va te mettre sur une croix à côté de lui. Hein. Non, jamais vu. Puis notre femme qui lui dit, mais je t'ai vu, toi, tu faisais partie de sa bande. Tu es folle. Jamais vu cet homme, je ne connais pas. Trois fois. Et là, le coq avait chanté parce que Jésus avait annoncé que Pierre le renierait trois fois avant que le coq ne chante. Alors, est-ce que Pierre est plus coupable que les autres disciples ? Moi, je ne pense pas. Il n'y en a aucun qui a soutenu Jésus. Hein. Ils se sont tous déguinés. Et les évangiles, sauf l'évangile de Jean, les autres évangiles nous disent qu'ils se tenaient loin. Ils observaient la scène de la crucifixion, loin, en essayant de ne pas trop se faire remarquer. Mais la différence, c'est que Pierre, lui, il a fait le fanfaron. Pierre, il s'est ramené un petit peu. À Dieu me plaise, au Seigneur, Jésus, tu verras, moi je te défendrai, j'ai mon épée là, prête à sortir. Il n'est pas question qu'on me mette la main. Et là, Jésus lui a dit, tu crois ça, mais tu verras. Alors évidemment, Pierre, eh bien, c'est là qu'on comprend la honte, vous voyez, la honte du péché. Il traîne depuis ce jour-là, depuis ce fameux jeudi saint, puisque c'était le jeudi saint, il traîne cette honte avec lui. Il n'est pas guéri de cette honte. Il sait qu'il a trahi. Alors quand Jésus lui dit pour la troisième fois, m'aimes-tu, l'air de remettre en doute, eh bien, il est attristé. Mais en réalité, il devrait se réjouir. Parce qu'il devrait comprendre qu'à ce moment-là, Jésus est en train d'opérer en lui une œuvre de rétablissement. C'est plus fort que ce que je vous dis là, plus fort que le pardon. C'est pas juste, bon, ok, allez, on oublie, pardonner, voilà. Non, il rétablit Pierre dans sa dignité. Parce que là, il était devenu indigne. Il avait trahi celui pour qui il jurait tout ce qu'il savait qu'il allait le défendre et qu'il le suivrait jusqu'à la mort. Rétablissement. C'est une sorte de résurrection aussi pour Pierre, hein, dans sa dignité. Je vous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, la nudité. Pierre se sentait nu au moment de paraître devant Jésus, parce qu'il savait que le regard de Jésus serait un regard difficile à supporter. Dis donc, toi, t'étais où là le jeudi, au moment où j'avais besoin de toi, hein. Eh bien, je crois que l'œuvre de Jésus dans nos vies, elle est à cette image. Vous savez, le pardon, tout à l'heure on l'a vécu, on a la confession du péché, puis suivi du pardon. Le pardon, c'est pas, allez, on oublie, on passe l'éponge, on recommence par rien, tout ça. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est beaucoup plus fort que ça. Le pardon de Dieu, c'est que Jésus nous fait passer de la mort à la vie. Parce que par nos péchés, nous sommes morts. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Lisez les épîtres, c'est bien délayé, bien expliqué par Paul. Vous êtes morts dans vos péchés. Et puis d'un seul coup, par le pardon sur la croix de Jésus-Christ, vous revenez à la vie. Vous êtes rétablis dans la vie. C'est quelque chose de fou, d'extraordinaire. Et en même temps, il y a une sorte de délicatesse, je dirais, parce que c'est pas du tout, enfin, oui, c'est pas du tout humiliant pour Pierre, la façon dont Jésus lui fait comprendre ce pardon. C'est pas du tout humiliant parce que finalement, Jésus le pardonne de deux façons. Il y a aussi cette façon de après chaque fois que, enfin, la première façon, c'est que il lui donne, puisque Pierre l'a trahi trois fois, eh bien, il lui offre trois fois la possibilité de confesser sa foi. Oui, Seigneur, je t'aime. Et à la fin, oui, tu sais toutes choses et tu sais. Alors là, il confesse sa foi, puisqu'il croit en Jésus. Il dit, tu es Dieu, donc tu sais que je t'aime. Donc ça, c'est la première façon de pardonner. C'est de tendre la perche à Pierre pour qu'il proclame sa foi. Et la deuxième, c'est de le rétablir. Je parlais de rétablissement, mais là, c'est dire le rétablir dans la mission qu'il lui a confiée, puisqu'à chaque fois que Pierre lui dit, tu sais que je t'aime, Jésus lui dit, prends soin de mes brebis, ou prends soin de mes agneaux. Et à la fin, soit le berger de mes brebis. C'est-à-dire qu'il lui marque de confiance, parce qu'il lui donne la mission de reprendre la mission qu'il lui avait confiée, tu seras pêcheur d'hommes. Alors, c'est coup-ci, c'est plus pêcheur de poissons, c'est pêcheur de moutons. les brebis, prends soin de mes brebis. Et il le confirme dans ce qu'il avait dit, tu seras le pilier de l'église, quoi. Hein, tu auras les clés du. Là aussi, il faudrait que je retrouve le passage. Donc voilà quelque chose d'extraordinaire. Le pardon de Dieu est une chose mais absolument extraordinaire pour les hommes que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes. Extraordinaire. Parce que c'est pas après de l'avoir bien fouetté, voilà, maintenant on oublie. Non, mais non, c'est avec une délicatesse, une bonté extraordinaire. Quel que soit ton péché, si tu te repens, tu es pardonné et je te rétablis dans la vie que j'avais pensée pour toi, la vie que je t'avais programmée, la volonté que j'avais pour ta vie. Voilà donc mes frères et sœurs, tout ce qu'on peut dire, vous voyez, à partir de ce tout petit texte, je crois que nous avons un Dieu qui est d'une proximité avec, il règne sur je ne sais combien de milliards, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 milliards, une fois de plus, d'êtres humains, des milliards d'êtres sur la Terre, ne pourrions être qu'insignifiants. Non, pour chacun d'entre nous, le Seigneur a une tendresse, a une volonté de pardonner, une pédagogie, une douceur, une capacité, quelque chose d'invraisemblable. Et moi, c'est ce que je retire de l'ensemble de ces 4 ou 5 actes, là, de la pièce qui se joue. Là, hein. C'est cette... cette extraordinaire proximité de Jésus qui est passé par des choses absolument terribles et qui n'a qu'une seule idée, c'est de pouvoir renouer avec ses disciples, avec ses apparitions jusqu'à l'ascension, de rétablir ses disciples dans la mission qu'il leur avait confiée, de tout remettre en ordre pour leur plus grand bonheur. Eh bien, Seigneur, oui, sois loué, sois béni, Seigneur, d'être comme tu l'as été avec tes disciples, d'être avec nous, aussi tendre, aussi bon, aussi profond. Amen. Amen.